la gestion durable des eaux de ruissellement chez soi. Une balado-diffusion présentée par la CAPSA. Animation, Louis Labarre.
Après tout ce que j'ai entendu sur l'impact des eaux de ruissellement et l'importance d'en faire une gestion durable pour la qualité de l'eau, j'aimerais bien ça, qu'on me donne des conseils ce que je pourrais faire ou appliquer autour de ma maison. Que j'habite en bordure d'une route ou d'un lac, c'est quoi les trucs? Quelque chose me dit qu'un organisme de bassin versant comme la CAPSA a sûrement des trucs à nous donner. On va écouter Marc-André Demers, aménagiste et responsable de projet.
Ben, tu sais, si on prend, je trouve, l'échelle de la propriété, là, il y a comme, on a vraiment deux types de ressources, bien souvent en eau, là, celle qui est dans le sol, puis celle qui nous arrive de la pluie, tu sais, que ce soit par les rivières ou directement sur notre terrain. Fait qu'on ait, qu'on soit agriculteur, puis qu'on ait des champs, ou qu'on soit propriétaire d'une maison en ville, tu sais, c'est vraiment le premier endroit où l'eau arrive, puis c'est de là que tous les impacts vont s'accumuler, tu sais, par la suite, là, c'est là que l'eau va potentiellement commencer à avoir des contaminants, c'est là que l'eau va commencer à prendre de la vitesse sur le sol, puis créer de l'érosion, c'est là que l'eau peut être gaspillée si pas retenue dans le temps aussi, là, des fois, on parlait tantôt des bacs de récupération d'eau de pluie, tu sais, on a les technologies en quelque sorte pour retenir l'eau puis l'utiliser à meilleur escient au moment opportun. Puis ça, ben, ça, je pense que ça fait la différence autant pour nous dans notre gestion des ressources. Je dis pour nous parce que je quelque chose d'écologique là-dedans, là, quelque chose de vraiment traiter l'eau comme de l'or bleu, comme pas comme de la vulgaire pluie. Ben, moi, pour limiter là, les impacts du ruissellement, tant en termes de qualité d'eau que de quantité d'eau, là, la première chose que je trouve qui peut être faite, c'est vraiment le débranchement des gouttières. Qui dit plus d'eau envoyée dans un cours d'eau dit plus d'érosion. Là. Il y a un équilibre à faire entre ces deux choses-là. Fait que je pense que c'est le premier conseil, débrancher ces gouttières. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pour débrancher sa gouttière, tu sais, généralement, ce qui est beau à faire, c'est des jardins d'eau de pluie, là, de vraiment là, permettre à cette eau de s'infiltrer sur notre terrain, de favoriser, tu sais, des aménagements qui intègrent des plantes hydrophiles. Puis vraiment permettre à cette eau de s'infiltrer là, sur notre propriété. Là, comme ça, on limite... Là, toutes les conséquences qu'elle peut avoir là, vers l'aval. Ben oui, c'est non seulement la diriger au bon endroit, mais de la retenir, de la ralentir. Ouais, c'est ça.
OK. Mais as-tu d'autres trucs pour nous aider, Marc-André?
Fait que l'imperméabilisation des sols, c'est sans doute le premier facteur à prendre en considération si on veut limiter notre impact. Là. Plus une surface est lisse, plus l'eau va être amenée à s'écouler rapidement puis se rejoindre, prendre de l'ampleur. Là, ça paraît bien gros, mais concrètement, c'est faire la différence entre l'asphalte de notre cours d'entrée, de notre pelouse, d'une forêt, d'un milieu humide, tu sais. Il y a vraiment toute une série des types de milieux qui sont plus à même de retenir l'eau. Puis ce qu'on voit maintenant, là, où on dirait qu'on est rendu, c'est des efforts pour désimperméabiliser. On veut restaurer des milieux humides, on veut... changer nos pavés d'entrée de cours pour permettre à ce que l'eau puisse s'infiltrer parce que c'est des espaces morts là, finalement là, cette entrée d'asphalte là, quand il n'y a rien elle pourrait avoir une autre utilité que de simplement accueillir notre véhicule sans mauvaise herbe là, elle pourrait vraiment jouer un rôle écologique dans nos bassins versants puis ça paraît toujours, je trouve, mineur, mais c'est des surfaces importantes là, quand on regarde aux alentours, puis c'est des impacts tout aussi importants quand on regarde, comme je disais tantôt, nos entrées de cours d'école inondées, nos grands-mères qui se font éclabousser sur le bord de la rue. Je pense que c'est l'eau la plus grise, à quelque part, qu'on a, là, qu'on ne voit pas, puis sur laquelle on peut avoir une influence. Ouais.
C'est drôle. Ça me rappelle le contexte présenté chez des propriétaires riverains dans l'autre balado. Je sais pas si Chantal, la CAPSA, avait parlé de tout ça avec les riverains du lac Blanc.
C'est pas évident à l'œil, là, comme ça, sans niveau, mais j'ai remonté la pente ici, du gravier, là, du stationnement, d'une part parce que je voulais pas voir d'eau aller vers la maison, mais d'autre part parce que ça envoie l'eau directement ici, vers le cèdre, vers les arbres. Et ce qu'on a constaté, là, après que les chevreuils aient bouffé tout le bas du cèdre, là, les branches étaient mortes, alors on a enlevé des branches. Avant ça, il n'y a rien qui poussait sous ces arbres-là. Et depuis qu'on a fait ça, c'est la même chose que près du chemin, ça pousse. Et ça fait un petit espace sauvage, naturel, qui est vraiment très beau. Sauf ces plantes-là, là, qui viennent de la maison en ville. Il y a un érable qui pousse là. En arrière, on ne sait pas ce que c'est, mais on le laisse aller pareil. Finalement, on a comme pour philosophie de laisser aller les choses le plus naturellement possible.
Puis la dernière, ben ça, tu ne l'as pas vu, on l'a fait l'année passée. On était-tu correct de faire ça? On ne le sait jamais. On l'a fait pareil. C'est que j'ai fait un mur de pierre ici, en bloc, qui est caché par ces fleurs-là.
Oui, ben oui.
Puis ça, là-dedans, il y a... Et bon, il y a du stock là-dedans. Là. Il y a 4 à 5 pouces de gravier 0,75. Du 3/4 en dessous, 0,75 pour filtrer. Un géotextile, puis du sable, il y en a... Je sais pas comment de poche que j'ai mis de sable là-dedans. Il y a du sable environ jusqu'ici. Okay. 4-5 pouces de sable. Puis par la suite, c'est de la terre. Là, on voit qu'il faut rajouter du paillis un peu parce que c'est enfoncé. On l'a fini l'année passée.
Hein. Okay. Donc, vous avez commencé par mettre du gravier de deux grosseurs différentes, le plus fin sur le dessus.
Oui.
Après ça, une toile, du sable. Vous avez terminé avec la bonne terre là, pour vos végétaux.
Il y a deux géotextiles. Il y a un géotextile en dessous de ma terre, puis entre le sable et le gravier.
OK. Il y a deux géotextiles,
oui. Okay. Puis on voit que l'eau, on pile dessus, l'eau reste pas fort. On a fait un petit bain là-bas là, pour les couleuvres puis les oiseaux, avec des lampes récupérées.
Hey, bonne idée, un jardin de pluie. C'est beau, ça s'arrose sans effort, ça capte les eaux de ruissellement qui peuvent ensuite s'infiltrer dans le sol, et avec les précisions de Louis-Philippe et Chantal, je m'aperçois que c'est pas si compliqué que ça à aménager.
Ben, c'est ça, l'idée, dans le fond... peu importe où on se trouve, qu'on soit en ville ou en campagne ou sur le bord d'un lac, l'idée, c'est que les eaux de ruissellement qui se retrouvent sur votre propriété, l'essentiel, c'est de pouvoir les ralentir, les capter, puis surtout leur permettre de s'infiltrer. Donc, que ce soit la sortie de votre gouttière que vous dirigez vers une zone végétalisée qui va permettre à l'eau de s'infiltrer ou que ce soit dirigé vers un puits d'infiltration ou un jardin de pluie ou que vous aménagez une bonne bande riveraine là, qui va pouvoir ralentir et capter l'eau qui arrive du haut de votre pente. C'est ça le principe à la base. Puis, en fait, plus vous avez de végétaux dans votre environnement, plus il y a des chances que ce soit bénéfique aussi pour contrer les effets négatifs du ruissellement. Cependant, il y a un petit bémol pour ce qui est du gazon, parce que c'est pas nécessairement l'amalgame de végétaux à privilégier partout. C'est sûr qu'en ville, c'est mieux d'avoir une surface gazonnée qu'une surface bétonnée, parce que le gazon va quand même permettre à l'eau de s'infiltrer. Par contre, quand on tombe en milieu naturel, vraiment, le gazon ne vient pas apporter les mêmes bénéfices que la végétation naturelle, tout simplement parce que le gazon en soi n'a pas des racines très profondes, n'a pas la densité qui permet de vraiment ralentir, capter et faire infiltrer l'eau adéquatement. Même que son aspect très homogène là, en surface fait en sorte, surtout dans les pentes finalement, que les eaux de ruissellement, on pense là, quand il y a des très bonnes pluies, finalement l'eau va glisser sur le gazon très rapidement. Elle n'aura pas le temps finalement d'être ralentie puis de s'infiltrer comme on le souhaiterait. Donc, quand on est en milieu naturel, comme sur le bord d'un lac, vaut mieux limiter le plus possible finalement les surfaces gazonnées au profit des surfaces vraiment de mélange d'herbacées, d'arbustes et d'arbres, là, comme on a l'habitude de voir en nature.
Ça, c'est un autre arbre qu'on a planté l'autre jour. Ici, notre balançoire, hey, j'entretenais ça propre. Il fallait que ce soit beau. On ne le fait plus. On peut utiliser la balançoire quand même. On a du thym ici, à profusion.
Oh.
Et c'est au fond, on veut un emplacement pour venir passer du temps de temps en temps. On l'a, puis on n'a pas besoin de couper la pelouse.
Exact.
Tout ça aussi, ça, c'est un lilas qu'on a planté.
Ça sent le thym, là, c'est fantastique. Bon. Mais ça globalement, vous n'avez pas de tondeuse à faire ici, là.
Ben, un petit peu sur le terrain, en haut. Okay. On s'est acheté une tondeuse manuelle que tout le monde a. C'est le fun. Et tout le monde la trouve le fun. Hier, on l'a fait couper par des voisins. Les trois voisins l'ont essayé, puis ont coupé notre gazon.
Fait que c'est ça.
Puis le gazon, je le coupe seulement dans mon chemin, dans le bois, en haut, parce que quand ça vient trop haut, ben là, je veux que ça reste un chemin, là. C'est la seule place qu'on a à faire du gazon. Là.
Je me rends compte au final que pour contrôler les eaux de ruissellement, les végétaux jouent un grand rôle pour aider, comme disait Marc-André Chantal, à ralentir, dissiper, capter et infiltrer l'eau avant qu'elle ne cause des problèmes d'érosion ou de contamination de nos sources d'eau.
Se mettre à la place d'une goutte d'eau pendant 2 secondes puis commencer à voir où est-ce qu'on se dirige puis à quel point... par le passé ou dans le futur, on peut faire des choses qui facilitent son infiltration dans le sol. Là. Puis ça, c'est bénéfique aussi pour nos sources d'eau potable, puis d'autant plus qu'elles soient municipales ou d'autant plus si on a un puits privé, de favoriser l'infiltration de l'eau. On en parle légèrement avec les changements climatiques, mais c'est un enjeu qu'on connaît mal là, encore. Là. Si on n'infiltre pas l'eau dans nos aires d'alimentation de puits, ben nos niveaux d'eau de puits vont baisser, puis ça, là, c'est peut-être là qu'on va commencer à se poser des questions plutôt que de simplement voir là, nos bouches d'égout un peu débordées.
Mm-hmm.
Ça a un impact sur la qualité de l'eau parce que les contaminants sont pas dans l'air, sont sur le sol, sont dans le sol, puis c'est à partir de ce moment-là que les choses se gâtent, si on peut dire ça. Là. Les terrains contaminés qui sont répertoriés, on fait vraiment attention à justement gérer les eaux pluviales sur ces secteurs-là, parce que c'est pas drôle ce qui se passe, mais si on ramène ça à les petits débordements de tondeuses qu'on a chez nous, ben il y a rien qui se perd, il y a rien qui se crée là, un jour ou l'autre. Ça va se retrouver dans un cours d'eau, dans un réseau d'égouts, puis ultimement dans notre fleuve.
Ouais.
Ah, voilà. La boucle est bouclée. Bien dit, Marc-André. Au fond, toutes les interventions humaines qu'on peut faire pour diminuer l'impact des eaux de ruissellement, en bout de ligne, c'est toutes nos sources d'eau potable, nos rivières, nos lacs et même notre fleuve qui en bénéficient. Vraiment, vraiment important, le contrôle des eaux de ruissellement. Sur ces belles paroles, merci de votre écoute. À la prochaine.
Cette balado-diffusion est une réalisation de la CAPSA, l'organisme de bassin versant des rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur La Chevrotière, présentée dans le cadre des activités de juin, mois de l'eau. Animation, Louis Labarre. Collaboration, Marc-André Demers, Gilbert Lavoie, Louis-Philippe Blouin, France Rochon et Chantal Leblanc. Musique et montage, Steve Hamel. Une initiative financée par le gouvernement du Québec, prévue dans le plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.